Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va parler de Inertia. Alors pour le coup, c'est vraiment Patrick qui va s'y coller parce que l'expertise PHP dans le duo, c'est clairement toi, Patrick. Donc tu vas nous parler d'Inertia, pourquoi c'est super intéressant, pourquoi c'est super puissant, pourquoi c'est rapide à mettre en place et pourquoi tu es totalement convaincu par cette technologie. Déjà, comment vas-tu, Patrick ?
Ça va bien et toi? La forme,
forme.
La saison
forme.
Se passe bien.
Ouais. C'est le ski, c'est cool. Le ski, c'est cool. Ouais. Le code, c'est encore mieux. Et quand on fait les deux, c'est juste parfait. Donc, c'est vraiment pas mal.
Le premier épisode de l'année, mais surtout 2026.
Exactement. C'est le premier épisode qui vient déclencher 2026. Évidemment, encore là, on va continuer à faire des épisodes, des épisodes de news, des épisodes pédagogiques, un peu comme aujourd'hui, on vient présenter des technos. On va continuer aussi à aller plus en profondeur sur des concepts un peu plus globaux qui sont propres à notre métier. Évidemment, on va continuer de parler d'IA, de vibe coding et de tous ces termes qui bougent énormément, mais en tout cas qui viennent changer fondamentalement en fait, notre manière de travailler. Et je pense qu'il y a des trucs plutôt pas mal qui arrivent. Donc, on continuera à en parler de toute façon.
Bah, disons qu'en termes de news en ce moment, c'est principalement IA, IA et IA. Et au niveau dev, c'est vibe coding à fond. Il n'y a que ça dans le flux. Donc, c'est un peu. Voilà. Donc, pour une fois, on va parler de code et pas d'IA. Et vraiment que de code. Je sais qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol un petit peu d'entendre que de vibe coding, tout ça. Donc, ça fait du bien un peu de coder.
Et surtout, je pense qu'on fera un épisode sur le vibe coding où. Qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et ça me paraît important de définir qu'est-ce qu'on entend derrière cette définition, qu'est-ce qu'on y met, en fait, parce que on fera un épisode dessus, d'ailleurs. On va pas, l'instant, aujourd'hui, on va parler d'inertia. À la limite, est-ce que je peux te laisser un peu présenter ce projet-là pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire pour quelqu'un qui est néophyte sur cette techno, qu'est-ce que ça amène et à quel type de profil de dev c'est vraiment dédié cette techno.
Ouais, tout à fait. Eh bien, Inertia, en fait, c'est un système qui permet comment dire. En gros, on part d'un système monolithique, type Laravel, enfin un framework en fait, type Laravel. Alors, c'est pas uniquement réservé à PHP et Laravel. Il y a différents frameworks qui fonctionnent avec, notamment Django, il y a Ruby qui fonctionne, Ruby on Rails, donc Laravel. Et il y a aussi le framework JavaScript qui s'appelle, qui n'est pas d'ailleurs présenté sur la homepage d'Inertia. J'ai un trou, rappelle-moi. L'équivalent de Laravel en JS, c'est... Tu l'as ? Non.
Non, je ne l'ai pas. Le profil MCP, MCP bon, bref. Classique, là. Ouais, je vois.
Donc, il y a aussi un framework...
MVC, le framework MVC. Ouais.
Donc, on peut aussi faire du JS derrière, on peut faire donc du Python, du Ruby, du PHP. Donc, c'est vraiment réservé, c'est pas réservé que à Laravel, et c'est vraiment multi-framework. Et ensuite, en front... Donc, ça permet de gérer le back, le front. Et au niveau front, on va avoir du Vue, du React et du Svelte, officiellement. Et après, il y a d'autres adaptateurs, mais ça, c'est vraiment les trois technos supportés par Inertia, vraiment officiels. Donc, vraiment, on trouve, si vous êtes plutôt React, il n'y a pas de problème, ça marche. Plutôt Vue, enfin, ou les deux, enfin, ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi cette techno, elle existe ? Tout simplement... souvent, quand on veut faire un front en JS avec du Vue ou du React, on est obligé de faire la partie front, donc dans un projet spécifique, et ensuite on va faire une API derrière, un back où on va pouvoir appeler. Donc ça fait un double travail en fait. On est obligé de développer le back-end avec les routes, API, tout ça, et ensuite au niveau du front, on va appeler l'API. Récupérer la réponse, l'afficher, etc. Donc tout ça, ça fait double travail, c'est un peu compliqué. Et quand on est une petite équipe ou un développeur tout seul, c'est double travail. Donc ça se passe souvent comme ça. Et Inertia, ce que ça apporte, c'est que ça apporte une unification en fait entre le back et le front. Et on se retrouve en fait sur un seul projet à pouvoir gérer les deux. et gérer les appels, tout ça. Enfin voilà, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, mais c'est assez magique en quelque sorte. Mais voilà, ça permet de simplifier les choses et on n'a plus besoin de faire des appels REST, JSON, tout ça.
Ok, donc en clair, est-ce qu'on pourrait dire que ça vient substituer le développement d'une API en créant en fait un contrôleur qui va gérer de manière un peu automatique toutes les entrées et toutes les sorties JS, et quel que soit ton langage en fait. Donc en fait, dans ton pattern MVC, le C de contrôleur, en fait, Inertia va venir se brancher sur ces contrôleurs pour venir injecter et récupérer le JavaScript directement, et on va pouvoir utiliser les données dans nos vues, quel que soit le framework JS qu'on a choisi. C'est ça ? Ça vient faire cette connexion, en fait ? C'est ça ?
En fait, ça supprime totalement l'API. Et du coup, toutes les datas sont envoyées par le contrôleur de Laravel, par exemple, et sont injectées en tant que props dans ta page, directement. Tu n'as plus besoin de faire une requête AJAX ou quoi que ce soit. C'est directement injecté dedans, et ainsi de suite au niveau du fil de route que tu vas cliquer sur un lien, ça va aller chercher les props, les injecter, etc. Donc c'est vraiment automatique, et donc tu n'as plus besoin du tout d'API, plus besoin de faire des appels AJAX, quoi que ce soit, de récupérer les props, etc. Donc ça enlève toute cette partie-là. Et après, il y a plusieurs avantages, puisque derrière... Alors moi, j'ai plutôt travaillé avec Laravel, mais c'est exactement la même chose pour n'importe quel framework. Derrière, on profite des avantages du back, c'est-à-dire tout ce qui est middleware, de sécurité, authentification, etc. Donc, tout ce qui est authentification ne passe plus du tout par le front, passe par le back, par le framework Laravel ou Ruby. Donc, c'est pas mal d'avantages à ce niveau-là.
Ok. Et souvent, je lis et j'entends de dire que c'est magique, parce que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que ça marche aussi bien du back vers le front, mais sur l'envoi d'un formulaire, ça va aussi envoyer du front vers le back. Ça marche vraiment dans les deux sens, quoi.
Ouais.
Tu valides ?
Ouais, c'est ce qu'on va voir après au niveau du code, mais il y a pas mal de components qui sont développés, parce que du coup, tu as un package qui s'installe niveau back, donc avec Composer si c'est du PHP, et après tu as un package niveau front avec NPM qu'on va ajouter, et donc là on a des composants qui sont disponibles, notamment le formulaire, et le formulaire en fait va envoyer les data au back, et c'est le back qui va gérer en fait la validation des data, et si ça passe pas ce qu'on veut, ça renvoie une erreur et ça va s'afficher au niveau du formulaire. Donc toute cette partie là en fait on n'a pas à la gérer, et on valide les data envoyées par le formulaire qu'au niveau du back. Donc, du coup, on évite cette double validation front, back, etc. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on gagne énormément de temps et on simplifie les choses, quoi.
Nice. Et c'est free to use, tout ça, là ? C'est quoi comme licence derrière ? Est-ce que tu es obligé de payer
un
abonnement ou c'est open source ?
Non, c'est open source, c'est totalement open source. Voilà, c'est maintenu par plusieurs, par une communauté, plus les gens, beaucoup par Laravel en ce moment. Mais non, c'est totalement open source, il n'y a pas à payer, rien du tout. Et on peut contribuer, évidemment. Toujours.
Top. Top. Et toi, tu l'utilises déjà en production ? Ça fait déjà longtemps que c'est en place, comme le projet a évolué, ça ne sort pas du chapeau, ce n'est pas un nouveau projet, quoi.
Moi, j'utilise j'ai un site en production là qui vient de sortir, et puis j'ai un autre gros site intranet qui va sortir prochainement, qui est pas encore en prod complète, mais qui est déjà c'est un gros truc, et c'est notamment pour ce type. Alors ouais, on va quand même détailler pour quel type de projet ça s'adresse. C'est donc principalement à la base. Alors ça gère le SSR. Donc, on peut générer un système SSR pour générer le HTML pour le serveur. Et après, ça hydrate l'application front. Mais moi, je trouve que c'est plutôt adapté pour tout ce qui est système où on va se connecter. Et après, on va, voilà, une sorte de back administratif, tout ça, où on n'a pas besoin forcément d'un SSR. C'est là pour moi où c'est le mieux adapté, parce que ouais, après la partie SSR est bien gérée par Inertia, mais je trouve que c'est un peu too much, et il y a d'autres technos qui s'adaptent un petit peu plus à ça. pourra voir, et je vous ferai voir aussi qu'on peut mixer, alors c'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut mixer, par exemple, dans un projet Laravel, une partie Inertia et une partie classique avec du HTML, tout ça.
Ok. Et toi, tu vois le vrai bénéfice, il est sur quoi? Il est sur la vitesse de déploiement d'une solution, la fluidité dans le dev, le confort de dev ou la vitesse d'exécution et de mise en place de fonctionnalités?
Bah, la simplification, en fait. Déjà, quand tu es sur un projet Laravel, tu profites déjà au niveau du back de tout l'écosystème Laravel. Et en plus, il y a beaucoup de packages qui permettent d'aller assez vite. Tout ce qui est authentification, gestion des droits, etc. Ou même paiement avec Stripe ou n'importe. Tu as un écosystème qui est très, 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 très riche au niveau de Laravel. Donc, tu profites de ça tout en allant assez rapide, en allant assez vite, parce que du coup, tu n'as pas toute cette partie API à développer, de double travail, etc. Donc, par exemple, un développeur tout seul peut développer beaucoup plus vite un système avec du front en vue React et un back-end qui est hyper robuste avec Laravel. Quoi.
Ok.
Non, c'est pas mal.
Et donc production ready, hein, tu me dis, ouais. c'est pas nouveau tout. Tu veux peut-être partager ton écran, c'est parce que pour avoir plus d'infos, c'est quoi? C'est Inertia.js. Là, on a un peu une vision globale où on voit en fait un peu toutes les technologies qui sont qui font la connexion entre le back et le front avec des exemples vraiment textuels et codés quoi. Donc tout de suite, en fait, on voit comment ça fonctionne et c'est vrai que
t'as le site officiel,
Ok.
T'as le site officiel qui vient d'être un petit peu revu au niveau design. Il est donc t'as la homepage qui explique vraiment les différentes technos, tu vois, au niveau du back. Ça, je me rappelle plus jamais ce que c'est ce petit oiseau là. Là, t'as du Ruby, là t'as du Django, donc en Python, du Laravel, et après devant t'as React, Vue ou Svelte. Donc les trois technos vraiment supportés
majeur,
officiellement.
On va dire,
on a un exemple en fait, par exemple pour Laravel là, où on a le contrôleur Laravel qui va aller chercher les utilisateurs, qui va faire Inertia Render. Et tu vois, en fait, les props, tu les mets ici, User, au niveau du render. Et ensuite, tes props, tu vas les récupérer dans ton composant vue en front, directement injecté dedans. Et après, tu les affiches. Donc, c'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de... C'est-à-dire que dans ton user.vue, tu n'as pas besoin de faire une requête Ajax pour aller chercher les utilisateurs, etc. C'est vraiment directement injecté. Donc, tu t'enlèves toute cette partie-là qui finalement est plutôt pas très intéressante souvent quand on développe un système, un projet, et on s'occupe vraiment que de la partie intéressante, voilà. Contrôleur,
ouais, c'est ça fait vraiment la glu de manière très 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 magique et bien pour un développeur back qui va pouvoir envoyer les données hyper facile et pour le développeur front il peut les récupérer via une prop s'il a toutes les infos quoi. Donc et après si c'est la même personne c'est d'autant plus facile, mais même pour un travail en équipe en fait ça solutionne les deux parties en fait. On a la flexibilité des composants type React, Vue, Svelte, on va dire les frameworks dits modernes, mais c'est vrai que souvent en fait on est obligé de faire des appels API et là on vient supprimer tout ce développement et cette lourdeur un peu d'API parce que tout est passé via des props et ça et toute le formatage tout se fait automatiquement nativement on va dire.
Ouais, complètement. Ouais. Et tu vois, on a, alors je vais vite fait, mais on a pas mal d'éléments qui sont pour améliorer les choses. On a on peut charger les choses en différé. T'as une gestion de versionning. Alors ça, c'est tout ce qui est partie Vite.js qui gère tout ça, mais tout est déjà prêt, out of the box. T'as du pooling. Le pooling, c'est quand tu veux faire un rafraîchissement automatique de la page. Donc ça, t'as un component, un helper qui permet d'utiliser. Infinite scrolling, ils ont sorti ça il y a pas longtemps aussi, si tu veux faire une liste infinie. T'as des components pour ça, et c'est hyper simple à mettre en place. Voilà, il y a plein de choses qui te facilitent la vie.
L'infinite scrolling, en fait, c'est juste une pagination avec où on vient charger on va dire, si j'en ai 20 sur la page, je viens charger les 20 suivants quand je touche le bas de page. Ça vient automatiquement recharger les 20 suivants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une pagination automatique, quoi.
C'est ça. Et mais sauf
ça,
que là,
c'est du géré automatiquement. J'ai pas besoin de le coder.
Automatiquement, c'est-à-dire qu'en front, tu as un component pour le gérer, et après, tu as aussi en back un système pour le gérer. Qui va automatiquement, le front va automatiquement appeler le back, et le back va répondre en fait avec la pagination sans que tu aies beaucoup de code à faire en fait. C'est ça qui est vraiment génial. Donc tu as voilà, tu as plein de choses comme ça qui facilitent vraiment la vie au niveau du développement. Et ensuite il y a une doc. Donc ouais, tu vois, il y a le core concept, on a pour qui c'est, donc c'est pour les petites équipes, pour les développeurs indépendants, etc. Donc c'est ce qu'on a déjà dit. Et comment ça marche ? Alors, on va juste rapidement expliquer comment ça marche. Inertia, en fait, c'est principalement un routeur au niveau du front. Donc, c'est un système de routing. Et il intercepte, en fait, on a des links, un peu comme on peut retrouver dans Nuxt ou Next. On a vraiment un système pour les liens, un component link. Quand on va cliquer dessus, en fait, lui, en fait, il va intercepter la requête, il va envoyer une requête AJAX au lieu de recharger la page. Et au niveau du back, tout simplement, il y a un middleware qui capte en fait le fait que c'est une requête Inertia. Et au lieu de renvoyer une page HTML, il va renvoyer un JSON en fait. En gros, ça fonctionne comme ça.
Ok. C'est une sorte de routeur intelligent en fait qui vient en fait créer un type un peu hybride, et ce qui fait que quand ça sort ou quand ça arrive, en fait, c'est formaté d'une certaine manière pour que ça soit interprété. Mmh. Et donc il y a toute une librairie de composants dédiés et spécifiques à Inertia, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Okay. Donc voilà le life cycle, comme ils ont fait un petit diagramme. La première visite sur ton application. Laravel va rendre le HTML complet avec les props injectés au niveau du HTML, et ensuite l'application va se lancer Vue ou React et va récupérer les props et les injecter, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier chargement. Et une fois que c'est chargé, dès que tu vas cliquer sur un lien où tu as utilisé le fameux link, le component qui permet de faire des liens, bah là il va s'occuper de faire des requêtes AJAX, etc. Et en fait c'est assez basique, hein, c'est assez simple en fait, c'est juste c'est magique, oui et non. C'est juste simple, un système de routing qui récupère les requêtes, qui les fait à ta place en fait.
La requête est surchargée justement là avec, on voit avec le X Inertia True, et en fait la requête est surchargée de cette information là, et donc elle peut être interprétée côté back pour rendre toutes les infos. Ah, excellent.
C'est grâce à ce X Inertia qui est dans le header en fait, qui permet au middleware côté Laravel de dire ah, ça c'est une requête Inertia, donc je renvoie plutôt un JSON. Donc c'est le JSON, il ressemble à ça. C'est une sorte d'info avec quel component je dois rendre, les props à injecter, quelle URL, etc. Donc voilà, ça fonctionne à peu près comme ça.
Excellent.
Après, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est déjà on comprend à peu près comment ça fonctionne, tu vois. Donc un middleware côté back. Et un système de où ils captent les requêtes pour faire des requêtes AJAX et remplacer.
Et là, je vois, il y a des composants qu'ils appellent Basics, les pages, les réponses, les redirects. Ça, c'est des composants que tu vas utiliser dans ton framework, donc React Vue. Mais c'est des composants qui sont codés pour chaque framework, ou c'est une sorte de méta-composants qui sont au-dessus?
Alors, c'est pas vraiment des composants, c'est plutôt là le basique. Ça, c'est ils expliquent chaque élément comment ça fonctionne, les pages comment elles fonctionnent, les réponses, les redirects, tout ça. Donc c'est ils expliquent un peu comment fonctionne, comment l'utiliser, tout ça. Les links, oui, c'est un composant qui est là. Et oui, ils le codent pour React, pour Vue et pour les autres frameworks. Ouais, spécifiquement. Après, à chaque fois, c'est toujours la même chose, mais on a vraiment les formulaires, c'est pareil. On a un component qui est aussi Vue, React, Svelte.
D'accord. Ok. Par contre, ces composants-là, c'est des composants non designés, si je comprends bien. C'est des composants purement fonctionnels, et il y a pas. Ouais. Donc c'est ok. C'est des composants fonctionnels, et après, à libre à nous en fait de venir les surcharger dans un composant dit design, pour pouvoir en fait mettre tous nos éléments graphiques, on va dire. c'est ça.
Ouais, c'est totalement des composants fonctionnels. Il y a pas du tout, c'est pas du tout une librairie de composants comme on peut avoir sur Next.ui ou autre. Hein, okay. Du tout.
Et tu peux, vu que tu parles de Next.ui, ou si, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des chats CN, il y a des choses comme ça. Et est-ce que, en fait, tu peux utiliser tes composants des librairies qu'on connaît tous et venir trouver un mix entre les deux pour pouvoir profiter, en fait, de la vitesse de déploiement avec Inertia et la vitesse de dev, tout en profitant des bons composants un peu chiadés, quoi.
Ouais, tu peux totalement. Alors moi, actuellement, j'utilise Next.ui, et en plus Next.ui, c'est top parce que c'est totalement compatible avec, alors Vue évidemment, hein, pas du React, mais on est plus sur du Vue. Par contre, c'est totalement compatible avec Inertia. Ils ont fait le taf pour que tu puisses l'intégrer facilement dans une application Inertia, donc ça c'est top. Et pour ceux qui connaissent Next.ui, c'est vraiment simple à utiliser, il n'y a pas grand chose à régler.
Et c'est Nuxt.
Ouais, c'est pas comme, comme les autres systèmes Shad CN où tu dois un peu faire de la config, etc. Là, il n'y a vraiment pas de config, c'est du Tailwind, du composant Vue, et c'est hyper simple à utiliser. Pour ça, c'est top. Et par contre, ils ont sorti, donc on en avait déjà parlé dans un épisode, Laravel a sorti des starter kits qui sont soit React, soit Vue. Et ceux-là sont sur ChatCN.
Ok.
Donc c'est totalement compatible. En fait, de toute façon, en fait, au niveau du front, tu fais exactement ce que tu fais habituellement avec avec n'importe quel framework, que ce soit Vue ou React. Donc tu travailles comme d'habitude. Tu peux utiliser ce que tu veux. Il y a pas de problème. Inertia, c'est juste un package en plus que tu vas rajouter pour gérer les liens, pour gérer les formes, etc. Mais ça ne change pas du tout, en fait, ta façon de développer, en fait. Ça reste identique. Tu ne changes pas tes habitudes, tout ça. Il n'y a pas de truc spécifique.
Un petit peu quand même, si, pour intégrer cette nouvelle techno, mais tu es en train de me dire que la doc est quand même bien faite, que le gain de temps est significatif, et qu'une fois que j'ai goûter à ça, en fait, la fluidité et l'expérience de dev fait que c'est super facile, donc je vais continuer à l'utiliser, pour faire court.
Ouais, alors après, ouais, c'est vraiment top, franchement, c'est top. Après, je dis pas que c'est le truc ultime et qu'on doit utiliser que ça, hein. Comme d'habitude, voilà, ça dépend des projets, tout ça, donc pour un intranet, pour un admin où tu te connectes, tout ça, c'est génial. Après, pour du front, où tu vas avoir besoin d'un rendu SSR, etc., je le conseillais peut-être un peu moins. Si on est sur du Laravel, je conseillerais plutôt de faire du LiveWire ou autre, où tu as vraiment un système HTML classique, etc., ou de passer sur autre chose. Mais voilà, je trouve que c'est hyper adapté pour faire un back-end et tout ça, vraiment top. Une SPA, tout simplement, quoi, comme on dit. Ça, pour ça, c'est super, super adapté. Après, voilà, ça dépend. Mais franchement, c'est ouais, c'est top, clairement.
Ok, ça marche.
Ce qu'on peut faire, je peux vous faire voir un petit peu de code. Alors, j'ai fait un mini projet. Donc, on va pas trop coder, mais je vais vous faire voir du code pour que ça reste un petit peu au niveau audio, que ça soit encore écoutable.
Et surtout, concrètement, c'est... voilà, c'est quoi? C'est deux packages. Est-ce que tu pars de toute façon, tu vas tout le temps partir de ton back et tu vas venir implémenter back, parce que, enfin, tu vas l'implémenter côté back, côté front, mais on est bien d'accord, c'est ce que tu as dit au départ, c'est toujours pour des projets, en fait, dits monolithiques, quoi. C'est pas des micro-apps, une app front et une app back, c'est vraiment pour des applis monolithiques, pour faciliter la connexion entre le back et le front avec du JS, mais c'est pour du monolithique uniquement.
Ouais, là on est, c'est vraiment, c'est-à-dire que tu pars d'un projet Laravel. Alors on va rester sur Laravel parce que c'est vraiment sur ce que j'ai travaillé. Ouais. Après, c'est franchement, le fonctionnement est vraiment identique suivant le framework. C'est vraiment, le concept est le même, tout est pareil. Après, moi voilà, je suis sur du Laravel, donc on va rester sur du Laravel. Donc tu pars sur un projet Laravel, donc avec la structure habituelle. Donc là, comme on peut voir sur le code, c'est vraiment la structure habituelle qu'on retrouve quand on lance un projet Laravel, voilà. Et derrière, ce qu'on va rajouter, en fait, au niveau Composer, donc Composer, je rappelle, c'est le gestionnaire de package de PHP. On va tout simplement rajouter Inertia Laravel ici. C'est la seule chose qu'on va rajouter au niveau du back. Et ensuite, on va implémenter le middleware, tout ça. Je vais vous faire voir, c'est assez rapide. Alors, la doc est pas super... la doc pour implémenter Inertia est pas super complète. Il manque des trucs, en fait, quand on suit vraiment la doc. Donc ça, c'est pas cool, mais j'espère que ça va s'améliorer. D'ailleurs, je pourrais peut-être contribuer pour l'améliorer.
C'est ce que j'allais dire, Patrick.
Ouais, c'est clair. Je suis en train de me dire, mais en fait, ouais. je peux contribuer. Donc, on rajoute ce package sur Composer Inertia JS Inertia Laravel. Et ensuite, alors j'en parlerai aussi, il y a Wayfinder qui est là, qui est un package. Je vais vous expliquer le fonctionnement derrière, mais ça permet de faire le pont entre le back et le front quand on fait du TypeScript, en fait. Parce que tout simplement...
On va pouvoir récupérer les types côté front et back. Et on a typé, parce que la nouvelle version de PHP, si j'ai bien suivi les épisodes de double slash, la dernière version de PHP, il y a du typage. Et là, tu es en train de dire qu'on peut exporter les typages de mon PHP vers du TS côté JS front, on va dire.
Ouais, la difficulté quand tu fais un back en PHP et un front en JavaScript, TypeScript, c'est les typages entre le back et le front. C'est beaucoup plus simple quand tu fais du JS en back pour avoir les typages. Et souvent, ça génère tout ça, machin. Il y a pas mal de packages qui ont été créés pour faire ça, indépendants, etc. Et là, on a Wayfinder qui, on en avait déjà parlé dans un épisode, qui actuellement, là, sur la version actuelle, génère les typages pour les routes. Donc, c'est pratique. On sait, je vous ferai voir, mais pour les routes, c'est vachement facile. On sait si on doit mettre un argument, etc. ou pas. Et la nouvelle version là, qui va sortir, qui est en bêta de Wayfinder, va aussi générer les types des routes, en fait. Pas des routes,
des objets.
En fait, ce qui est injecté dans les props, au niveau des props.
OK.
Donc, ça va gérer. En fait, là, ça va, la prochaine version va gérer tout le typage des props. Des routes et tout, donc c'est plutôt pas mal, c'est en bêta, là c'est en test, donc c'est pour ça que j'ai mis Dev Next, là, c'est la version bêta que j'ai installée pour vous faire voir, mais du coup là on a vraiment un système qui va générer le typage du back au front et le rendre disponible pour ton application, donc c'est vraiment c'est top. Donc tu vois, on n'a pas grand chose hein, au niveau du back, on a juste le package Inertia, le paquet Wayfinder, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Ensuite, au niveau, comme je disais juste avant, c'est un middleware en fait qui gère les requêtes.
L'interprétation.
Inertia.
Ouais.
Voilà. Donc dans le Laravel, on va créer un middleware qui est ici, qui est assez simple, et on va pouvoir.
C'est le seul middleware en fait. Tu vas faire un seul middleware pour interpréter Inertia, et en fait, toutes les requêtes Inertia vont passer là-dedans. Et ça va juste décoder les infos, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Attends, le middleware, il est là, Bootstrap. Hop. Il est ici, tu vois. On a le Handle Inertia Request, donc qui est un middleware qu'on va enregistrer ici, qui va capter toutes les requests et puis dire, ça c'est Inertia, ça c'est pas Inertia. Et ensuite, injecter ce qu'il faut. Et ce middleware-là qui est ici, en fait, on a un système qui s'appelle Share, ici, une fonction où on va pouvoir partager des éléments entre les components. Tu vois, au lieu de le mettre au niveau de la route, on va pouvoir dire, par exemple, quelqu'un qui est authentifié, l'utilisateur, on va le mettre ici. Si la personne est authentifiée, on va mettre les infos de l'utilisateur ici. Du coup, ça sera partagé dans tous les components. Au lieu de le mettre à chaque fois dans la props, tu vois, du contrôleur. Okay. Donc, on a cette partie où on peut partager des éléments, des props, directement, automatiquement. Et une fois que c'est mis là, ça se partage tout le temps dans toutes les pages. Donc, ça, c'est pas mal.
Toutes les infos, en fait, si tu les as partagées à un moment, en fait, ces infos sont partagées aussi sur les nouveaux composants ou sur les nouvelles requêtes, en fait. Et ils vont aussi être surchargés de toutes ces informations-là, quoi.
Donc, c'est hyper pratique, ouais. Surtout pour l'authentification ou des data que tu utilises un peu partout.
Et tout le reste, quoi.
Ouais, ça, c'est pas mal. Et donc, ça, c'est sur le back. Donc, tu vois, juste un middleware, c'est hyper simple à mettre en place. Et après, au niveau du front, donc, si je vais dans mon package.json, j'ai juste un Inertia Vue 3, ici, un package. Donc, adapté, parce que là, je l'ai fait en Vue, donc c'est Vue 3, sinon ça aurait été React, mais on a juste ce package à rajouter, évidemment Vue, hein, NuxUI aussi, parce que j'utilise NuxUI, donc tu vois, j'ai trois dépendances, et c'est tout ce que j'ai, en fait. Et après, j'ai un package Wayfinder qu'on va rajouter sur Vite pour tout ce qui est génération type, tout ça. Mais tu vois, c'est assez basique. Il y a pas grand-chose au niveau du front. Il y a juste un package, voilà, Vite 3.
Voilà, et voilà. Après, dans mes pages, il me suffit d'utiliser les composants spécifiques à Inertia pour pouvoir profiter de ça, ou je dois déclarer quelque chose en plus dans mon côté front. Non.
Alors non, du tout. Tu vois, je vais te faire voir. Alors au niveau du contrôleur du PHP, donc je crée des routes. Alors pour, je vais vite t'expliquer rapidement pour les gens qui connaissent pas Laravel. Là, on va déclarer les routes ici. Donc j'ai, tu vois, le chemin, quel contrôleur et quelle fonction. Voilà. Donc là. Et donc là, j'ai toutes mes routes. Donc index contrôleur, c'est celui-là. Donc l'index est là, c'est la première page. Et ici, en fait, pour dire je vais rendre un composant, enfin une page, c'est ici, c'est inertia render. La page, c'est index.vue. Et ensuite, les props, c'est celle-là. Tout simplement.
Et donc là, en fait, on est dans le contrôleur et c'est là où tu vas injecter en fait toutes tes ressources et toutes tes dépendances. Et ouais. Au lieu de faire ton render, on va dire en JSON ou en HTML, là, tu vas lui spécifier en fait que c'est un render inertia et tu lui mets toutes tes props. Et potentiellement, tu peux lui donner autant de props que tu veux.
Tu mets ce que tu veux. Ouais, tu mets ce que tu veux et tout est transformé en JSON, en objet JSON. Là, habituellement, sur un contrôleur Laravel, tu as un render avec un nom de vue Blade. Tu sais, voilà, Blade, c'est le moteur de template qui est par défaut dans Laravel. Donc, on va rendre un template Blade et ça va rendre du HTML. Et là, donc, avec ce inertia render, on va plutôt rendre une page vue. Donc, lui, au niveau du front, ce que j'ai créé, ce qu'on doit créer, c'est dans app.ts, donc le point d'entrée de l'application, comme on peut l'avoir dans Vue. Hein, généralement, dans une application Vue, tu as un app.ts où tu as un create app qui est ici d'ailleurs. Et là, tu vas générer ta vue, enfin ton application Vue, et elle va se construire grâce avec le create app. Donc là, c'est pareil, dans le app.ts, on a juste un create inertia app avec un resolver, et après le setup, c'est create app, donc on va créer l'application vue, quoi. Donc ça reste vraiment très, très proche de ce qu'on fait habituellement. On crée une application vue, rien de plus que ça, quoi. Et donc là, ce que j'avais fait voir dans le contrôleur, dans l'index, j'affichais la page donc index, tout simplement il va la chercher là, dans page, donc là je suis dans le JS, hein, donc c'est l'application front, dans pages, on a index.vue, voilà, ma page elle est là, et donc automatiquement il va injecter les posts ici.
Ok, et d'où l'importance en fait de bien respecter les conventions de nommage. En fait, si tu respectes les bonnes conventions de nommage, tu n'as pas besoin de définir le chemin, il est automatiquement interprété parce que tu as bien respecté les bons noms et ça fait tout seul, quoi. Sous couvert que tu as bien mis les bons noms à chaque fois, quoi. Donc, c'est vraiment sur une approche convention over configuration, quoi. Si tu respectes les conventions, ça marche tout seul. Ok.
C'est ça. Là, j'essaie de lancer mon composer. Je sais pas pourquoi.
Et par contre, là, je vois dans define props, il y a inertia page post. Ça veut dire que dans mon composant front, je dois quand même lui spécifier que cette props, en fait, elle est de type inertia, quoi. C'est la page de inertia. C'est pas parce que sur la définition de props, parfois tu peux rentrer beaucoup d'informations. Tu peux mettre des validations, des choses comme ça. Là, en fait, je vois que c'est d'abord inertia, puis page, puis post. Donc en fait, on lui spécifie bien en fait le chemin qu'on veut récupérer, quoi.
T'as été tu vas assez vite parce que du coup là, t'es déjà sur Wayfinder, mais effectivement en fait c'est la nouveauté de. Alors là il est en. Attends, je vais le lancer. Parce que je sais pas pourquoi ça veut pas se lancer. Est-ce que ça marche sur. Ouais, là c'est bon. En fait, sur la nouvelle version de Wayfinder, tu as justement accès directement à des inertia, la page post en fait. C'est, et donc là, ça me donne normalement Je sais pas pourquoi ça déconne, mais normalement tu as directement accès à la valeur de poste en fait. Qu'est-ce que c'est
OK.
et ça va directement prendre dans le modèle en fait, parce que ici tu as un modèle poste par exemple où tu vois on a un title et un content et ça va directement générer un type de poste et avec un title string. Un
OK,
content
parce
string.
Que c'est Wayfinder et Wayfinder c'est le typage des objets, on va dire, et donc tu es obligé en fait de lui passer le inertia page. Parce que en fait, là, tu viens en fait typer ta props avec ce fameux Wayfinder qui est le typage sur Laravel pour faire tes injections, c'est ça. Sinon, en fait, ça serait un truc un peu plus classique, non typé. Ta props ne serait pas typée, c'est ça?
Ouais, bah en fait, si tu n'utilises pas Wayfinder, c'est toi qui es obligé de typer à chaque fois, de créer des types TypeScript
okay.
pour dire bah, le post, c'est un title, c'est un content, etc. etc. Ce que j'ai fait sur mon projet d'intranet là, sur lequel je travaille en ce moment, parce que Wayfinder est en version bêta avec le nouveau système de typage, mais j'ai pas, moi, sur mon projet actuel, il n'y a pas de version, j'ai que les routes en fait qui sont typées. Donc.
T'es pas assez cascadeur pour faire du pour pousser du bêta en.
Bah non, mais ça vient de sortir. Alors je t'avoue que ça vient de sortir et je t'avoue que j'ai un peu. Je me dis, mince, dommage. J'ai fait tout le code. Ouais. J'ai dû me faire le typage. Mais d'un autre côté, je me pose la question sur. La problématique, c'est que là, par exemple, si tu. Effectivement, là, tu reçois les. Tu peux typer les props qui arrivent dans la page actuelle. Mais moi, derrière, si tu veux, on a des components où tu vas aussi passer des props. Et je n'ai pas encore vu comment je pouvais décomposer ces props, en fait. Ou. Tu vois, parce que là.
Les déconstruire, tu veux dire?
Bah, en fait, moi, les posts, par exemple, généralement, tu vas faire un composant de liste post, par exemple. Donc, il va falloir passer ces posts à la liste. Alors, j'ai pas encore vu si je réutilise ça. Enfin, j'ai pas. Franchement, c'est vraiment en version bêta, c'est tout nouveau. Donc, je vais voir si je l'implémente maintenant ou si j'attends un peu que ça sorte de la version bêta. Normalement, c'est plutôt stable, mais bon, à voir quand même. Mais en tout cas, c'est pratique, tu vois, parce qu'on peut utiliser directement les types sans nous les écrire. C'est généré directement à chaque fois que
ça récupère.
En fait, les
mêmes ça récupère le typage de ton objet qui
est sur
ton
hein.
modèle. Quoi.
Ouais, c'est instantané, c'est-à-dire que là, si je change au niveau du PHP, ça va automatiquement régénérer les types pour le front. Donc, c'est hyper
donc
rapide.
Donc, tu as un watch qui tourne. Quoi.
Ouais.
Nice. Trop bien.
Ouais, voilà, c'est automatiquement reloadé, tout ça. Donc, j'ai lancé le projet. Donc, c'est un truc tout simple, en fait. C'est juste voilà, une liste de postes. Je peux créer un poste et je peux modifier un poste. Et on va regarder ensemble comment ça fonctionne. C'est surtout pour pouvoir faire voir, en fait, au niveau de la liste. La liste, elle est ici, donc c'est juste, je récupère les postes. Donc, les fameux postes où je fais la requête. Donc, je rappelle, c'est dans une database SQLite. Par défaut, en fait, quand tu crées un projet Laravel, tu as une base SQLite qui s'installe et après tu peux passer sur d'autres bases de données. Mais voilà, là ça suffit. Donc je vais faire une requête. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'au niveau du bac, tu utilises donc c'est Eloquent qui permet, c'est l'ORM de Laravel qui permet de faire des requêtes à la base de données. Donc l'avantage c'est ça, c'est qu'au niveau du bac, on peut utiliser l'ORM, etc. Tout ce qui est déjà disponible. Pour faire des requêtes, tout ça, on n'a pas besoin de faire autre chose. Donc, c'est pratique puisque je fais ma requête, j'injecte les postes et ils sont disponibles directement ici. Donc, c'est ultra simple à mettre en place. Donc là, j'ai ma liste, je l'affiche tout simplement. Et au niveau des formulaires, ils sont ici. Donc là, j'utilise Nuxt.ui, donc c'est pour ça, si tu reconnais, hein, les UFormField, UInput qui sont là. Et en fait, le formulaire, ici, le composant formulaire de Inertia qui permet de gérer donc, les erreurs, le processing. Donc, c'est juste englober en fait, mes champs dans le composant form. Et à partir de là, c'est géré automatiquement.
Ah, excellent. Et par contre, ta validation va se faire côté back, tu disais.
Exactement.
OK. Ce qui veut dire que si Jean-Michel il a pas mis un bon email, tu vas quand même taper ton serveur pour voir que c'est pas un bon email quoi. Tu vois, c'est ça. Tout. Après, voilà, c'est le parti pris de Inertia. C'est l'avantage. Après, on a tous des politiques un peu différentes, tu vois, sur des services qui se font énormément, qui sont en énorme demande, en fait. Il y a aussi une approche en disant, bah, en fait, il faut faire une validation côté front pour valider déjà que c'est un bon email. Ça sert à rien d'envoyer la requête au serveur parce que de toute façon, son email, il est pourri, quoi. Donc après, voilà, il y a une approche où tu peux faire une pré-validation en front.
Ouais, mais du coup, à chaque fois, ça te fait deux validations. Tu dois valider en front.
Exactement.
Ensuite, ton API va encore valider. Donc, ça te fait double travail, en fait. Et là, en fait, tu le fais qu'une fois. Je le fais qu'une fois parce que, par exemple, là, si je vais dans mon contrôleur, donc le contrôleur, il est là. Le store, la fonction store, en fait, c'est celle qui va, quand je crée un poste, c'est elle qui va gérer. Donc, au niveau de Laravel, on a un système qui est de request. Donc, tu vois, il y a du typage. Hein. Ici, on a une injection de dépendance. Donc, automatiquement, request est disponible et déjà instancié. Je valide. Donc là, c'est validate. J'ai un title, un content qui sont obligatoires. Et donc, je te fais voir si je clique sur créer. Donc, alors, tu vois, au niveau de mon front, la create, c'est mon formulaire de front. Je n'ai pas de système de validation, en fait. On a des slots qui sont ici. Error, processing. Donc, processing, quand il est en train d'être envoyé et tout ça. Error, c'est s'il y a des erreurs qui sont envoyées. Tu vois, c'est hyper simple. Hein. J'ai juste des champs.
Ouais.
Et maintenant, je clique créer automatiquement. Voilà.
Oui, ça me renvoie. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as tapé ton serveur ou pas?
Oui. Ok. Tout à fait.
Okay.
C'est le serveur qui renvoie les erreurs, en fait. C'est pas du tout le front qui renvoie les erreurs. C'est ça qui est. Qui est tu vois, en fait, c'est validé uniquement côté back. Et tu fais qu'une fois le travail. Et donc, le front affiche les erreurs. C'est pas passé. Hop, ça revient.
Ok.
Et si par exemple, j'enlève ça, je fais nullable. Bah, j'ai que le compte. Tu vois, j'ai changé en back.
Ouais.
En fait, donc, le title peut être nul, mais pas le texte. Et ben, automatiquement, tu vois, et c'est juste là, c'est juste au niveau du back. Donc, tu fais qu'une seule fois la validation. T'as pas besoin de faire une validation côté front et côté back au niveau API. Tu le fais juste côté back et le front affiche les erreurs. Et c'est vraiment ça qui est hyper puissant, en fait. Rien qu'au niveau des formulaires, c'est juste incroyable le temps que tu peux gagner. Parce qu'on sait très bien, les formulaires, c'est une des choses les moins intéressantes à faire quand tu fais du développement. Et la validation des formulaires encore plus. Donc, si tu peux la faire qu'une seule fois et côté back, c'est parfait parce qu'en plus, tu vois là, côté back, il va me valider les trucs. Si c'est OK, il me les met dans validated et ensuite je crée mon poste, tout simplement. J'ai pas besoin
avec
de faire,
les valeurs qui ont déjà passé.
Voilà, avec les valeurs qui sont passées. Quoi.
Okay.
Donc, tu vois, ma fonction, elle est quelques lignes en fait pour valider et sauver un poste.
Ok. Ouais.
Parce que si j'avais pas ça, j'aurais dû faire le formulaire qui valide les data, la requête qui va envoyer les data, éventuellement gérer aussi les retours si l'API me dit bah non ça passe pas. Si tu vois s'il y a un truc qui est pas identique. Et ensuite au niveau de l'API, il aurait fallu enregistrer. Ok c'est bon, bah tu retournes pour dire bah c'est validé, c'est enregistré. Tu vois, je te dis pas le travail que t'as à faire par rapport à juste ça en fait, faire un bac qui dit ok c'est validé. Et après je fais une redirect sur index. Donc en fait qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je crée. Et je suis revenu à l'index.
Tu as créé ton poste facilement. Ok, ouais, top. Top. Et voilà. C'est sûr que toute cette interprétation de validation peut être super compliquée et pas très agréable à faire. Et là, en fait, tout est centralisé. Quoi. Top.
Tout est centralisé, tout est clean et surtout, tu voilà, as tout un système d'helper. Alors, on est sur de la Laravel. Mais que ce soit du Django ou n'importe, ou du Ruby on Rails, c'est pareil, t'as des fonctions comme ça qui te permettent vraiment de valider des choses, de créer des posts, c'est hyper simple. Et pareil, au niveau de l'update, par exemple, ici, sur Laravel, on a un binding au niveau de la route, c'est-à-dire que quand tu arrives, quand je clique sur éditer, ici, donc là, j'arrive sur cette fonction au niveau du back, j'ai la request et j'ai aussi déjà le post qui est déjà créé. Avec l'ID, en fait, Laravel va chercher le post et l'injecter ici. Et donc, moi, je n'ai même pas besoin de faire de requête, tu vois, au niveau de la fonction pour aller chercher le poste. Il est déjà disponible.
Il est déjà identifié, quoi.
Voilà, c'est bindé. Il arrive directement dedans. Je modifie et puis c'est... Voilà. En fait, c'est tellement simple que... Voilà.
C'est perturbant. C'est surtout ça. Et est-ce que quand tu viens où tu tapes tout à la main, en fait, il y a quoi ? Il y a un côté magique, il y a un côté perturbant, ou il y a un côté non mais c'est du cheat, limite c'est cheaté quoi, tellement que c'est facile, ou au final tu prends vite goût et après ça devient un standard ?
Non, si tu prends vite goût et puis du coup tu peux implémenter plus rapidement des choses. Donc ça c'est. C'est, ouais. Et donc, petit truc, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de Wayfinder, on a, donc ce que je disais, c'est qu'on avait au niveau du route, on a du typage. Exactement là, tu vois, le store. En fait, quand les routes, il va les créer, donc de mes routes. Et là, il sait, en fait, voilà, j'ai la fonction store, tu vois, j'ai la fonction edit, tout ça. Tout ça, c'est disponible directement. Et je la récupère ici. Et le store, en fait, donc là, j'ai ça, mais dedans, en fait, tu as URL ou méthode. Donc, tu peux afficher l'URL ou la méthode. Alors, dans les formulaires, on met directement la fonction, et lui, il sait déjà, au niveau de l'action, la méthode et de l'URL. Mais on peut l'utiliser aussi dans mon component de navigation. Tu vois, au niveau de la navigation, au lieu de mettre un truc en dur, au niveau de l'URL, bah, je mets index que j'ai été chercher.url. C'est-à-dire que si jamais, une fois que j'ai ça en place, si jamais au niveau du bac, bah, j'ai envie de changer la route, si je vais là et que je change la route, je ne veux plus que ça s'appelle create, mais new, par exemple, bah, automatiquement, le front, ça va changer aussi. Okay, je n'ai plus besoin de repasser sur toute mon application pour changer les URL.
Ok, donc en fait, c'est comme si tu avais créé une sorte de raccourci ou de proxy, on va dire fonctionnel, ce qui fait que même si tu changes le nom, au final, ça va pas ça va tout se faire de manière dynamique. Tu ne seras pas obligé de passer sur ton application pour faire toutes tes modifications, quoi. Donc, tu as une sorte de proxy intelligent pour ton routing dynamique, on va dire. Ouais, c'est...
Ah, c'est top. Et donc voilà, tu vois, les formulaires, la puissance du truc. Et tout ça, tu vois, c'est une application vue comme on peut en faire tous les jours. La seule différence, c'est qu'on va utiliser des éléments Inertia en plus dans cette application. C'est la seule différence. Évidemment, on a des composantes qu'on peut retrouver sur tous les frameworks head, par exemple, pour injecter un title dans le head de la page. Tu vois, là, je viens de le mettre. Donc, normalement, maintenant, on a la liste de postes, tu vois. Donc, c'est des choses... Voilà, c'est tout des helpers qui nous permettent vraiment de... Si t'as remarqué aussi, j'ai pas de layout qui est déclaré, là, dans mon composant, dans ma page. Je l'ai déclaré ici. J'ai mis un layout. Il est là. Par défaut,
c'est le layout standard pour pouvoir une sorte de wrapper.
Le défaut, c'est celui-là.
En application,
voilà. Du coup, fortement, c'est de suite injecté. Petit changement aussi. Alors, on parlait de Wayfinder qui est en version bêta. Autre chose qui est disponible de suite, c'est ça. Alors, habituellement, en fait, si je montre le, peut-être je redémarre. Habituellement, en fait, actuellement, les data de base, quand tu charges la première fois la page, voilà, c'est là. Je vais grossir un peu. Actuellement, en fait, c'est injecté dans un attribut data page.
D'accord. Donc, c'est des données surchargées.
Ouais, en JS. Fait, toutes les voilà, le premier chargement de l'application, les props... pour lancer l'application, ils sont injectés dans un attribut data page. Ça, c'est actuellement comment ça fonctionne. Ils sont en train de changer ça. Il y a un gars, d'ailleurs, c'est un contributeur qui a lancé ça et qui l'a fait. Ils sont en train de changer ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de changer donc, via cette valeur dans le .env, et via, tu vois, on est dans le futur, donc c'est vraiment un truc qui est en train d'être mis en place, mais qui est déjà à peu près stable.
Donc c'est une feature flag, en fait, c'est une fonctionnalité qui est déjà opérationnelle, qui n'est accessible que sur déclaration, configuration d'un feature flag avec le use script element for inertia. Et ça, qu'est-ce que ça va changer ?
Ça change ça. Hop. La différence, c'est que maintenant, tu vois, c'est dans un script. En fait, c'est plus dans le... Là, on a le app où on avait l'attribut. Maintenant, c'est plus dans le div. C'est dans un script application JSON où ils ont mis... Donc, tu vois, c'est un peu... On est comme dans un Next ou un Next. Donc, c'est beaucoup plus propre.
Donc, en fait, ça vient vraiment séparer le rendu du DOM avec tes injections de données. Là, en fait, on a une ligne de script avec toutes les données qui sont de type application JSON. Et il n'y a pas, en fait, cette injection. Par contre, là, on est bien d'accord que dans ton exemple, vu qu'on a le DOM qui est vide, et une balise script où il y a toutes les données, il y a toutes les props, là, on n'est pas du tout en SSR, on est bien d'accord.
Non, là, le SSR n'est pas en place.
Il n'y a pas de rendu serveur, parce que l'application app, ou en tout cas l'injection de données se fait a posteriori via du JS, donc ça veut dire que le DOM est vide, donc notre ami Google ou ChatGPT, il n'aime pas du tout, parce qu'il n'a rien à voir, quoi.
Non, là, on est vraiment en mode SPA. Donc, truc classique, un div totalement vide et l'application est générée dedans. Donc, alors, l'avantage de passer par une application JSON au niveau des data, c'est que le parsing, en fait, de l'application sera... Bon, alors, du coup, là, c'est un peu tout vide, mais si jamais tu fais du SSR, le fait qu'il y ait un attribut avec des data qui soit parfois conséquente, hein, si tu mets beaucoup de data, ça ralentit un peu le parsing de tout le node, en fait. Donc, le fait de le mettre en script comme ça, c'est beaucoup plus efficace.
Ok. Et surtout, si tu refais une requête, si tu fais une modification, tu ne vas modifier que la partie que tu as bougée. Je pense que tu as une notion de composant qui va pouvoir en fait, appeler uniquement les infos qu'il a besoin. Tu n'as pas besoin de recharger toute la page, je suppose. Je ne sais pas, c'est une question. Hein.
Les props qui sont injectés au premier chargement, après, elles ne changent pas, en fait. Après, les requêtes vont se faire en AJAX et les props qui vont être chargés seront via la requête. Donc, en fait, ce qu'il y a dans la page, dans le HTML de base, ne change pas, en fait. C'est vraiment... Okay. La mise à jour des props en fonction de la navigation, c'est vraiment récupéré par la requête.
D'accord.
En général. Dernière chose que je voulais faire voir, c'était au niveau de... Par exemple, tu veux... Des fois, on est obligé de mettre un store, par exemple, pour gérer un state, tu vois, tu veux faire un filtre ou n'importe quoi, donc le filtre, qu'est-ce qui active, tout ça, donc tu vas mettre un store en place avec Pinia sur Vue, par exemple. Il y a quelque chose qui est vachement intéressant. Là, j'ai mis en place un filtre, un système de filtre, donc ici, une recherche, donc le filter, il est ici, il est juste un champ tout simple, avec un modèle, enfin avec une référence, un value. Comme je disais, c'est un router, hein, Inertia, donc on a une fonction router, évidemment, qu'on peut appeler pour faire des actions, visiter, changer de page, etc., ou recharger la page. Et ça nous permet en fait de recharger aussi les props. L'avantage, c'est que là, par exemple, comment fonctionne mon filtre ? Quand je vais taper des mots, le ref, bah forcément, c'est lui qui récupère tout, et je watch cette référence pour dire bah, si ça change, tu update la query. Dans cet index, je peux mettre une query, donc des paramètres donc qui seront search pour le coup, et ça va s'injecter automatiquement, et ça va faire un rechargement de post, donc là, les props post vont être reloadés automatiquement, et donc ça va afficher le résultat.
Comment ça fonctionne ? Par contre, est-ce que tu recharges toute ta page ou c'est uniquement la props qui est rechargée ? C'est là toute
la
puissance.
C'est uniquement la props. C'est là toute la puissance. Donc si je fais juste ça, tu vois, ça m'a changé sans rechargement du tout. Et donc là, la valeur est là. Et donc, en quelque sorte, le state est géré avec l'URL. Et c'est vraiment pratique. Pour l'intranet, tu vois, j'ai pas mal de systèmes de calendrier avec des dates, etc. Donc, tu vas passer d'une semaine à une autre, tout ça. Et donc, toutes les valeurs se mettent dans l'URL. Et l'avantage, évidemment, bah, C'est que si je recharge, bah, j'ai toujours le...
Tu gardes. Le ok, donc en fait, tous tes filtres et toutes tes infos de recherche ou tes filtres sont passés dans les query paramètres de ton URL. Donc, elle est partageable. Donc, elle est rechargeable. Donc, elle est hyper intéressante. En clair, ça vient gérer dynamiquement, en fait, tous tes query paramètres de ton URL.
Voilà, tu as un state au niveau de l'URL, tu n'as plus besoin d'avoir... Alors, comme je te dis, l'intranet, là, j'ai aucun store. Et pourtant, il y a plein de trucs de recherche, tout ça. Mais tout passe par l'URL, donc le state est plutôt géré par l'URL, et donc tu n'as pas besoin de store, et ça, tu peux recharger les pages, etc. Tu ne perds pas ta requête et tout ça. Donc, c'est vraiment pratique. Et donc, tu peux recharger donc, des props comme ça, à la volée, etc.
À la volée. Enfin,
et c'est
assez fluide et assez facile à mettre en place. Et le côté magique, pour l'avoir fait un peu, alors déjà à la main, mais c'était pas fiable du tout, c'était vraiment la merde, c'était très compliqué. Et après, je suis passé par une librairie justement en pure JS pour faire ça, et c'est vachement plus intéressant. Mais là, il n'y a pas besoin de librairie externe. C'est nativement, en fait, c'est déjà pris en compte.
Ouais.
Et ça, c'est très, 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 très puissant parce que, bah, une fois de plus, c'est de la configuration correcte qu'on s'évite en respectant toutes les conventions. Donc, non, c'est très bien pensé. C'est très, très fonctionnel et rapidement, enfin, assez facilement... et rapidement déployable, quoi. Parce que cette fonctionnalité-là, si tu veux la coder toi-même,
ouais, dur, c'est ça, quoi. C'est hyper simple. En gros, ça te simplifie vraiment le code avec toutes ces helpers, toutes ces bonnes pratiques. Ça te simplifie énormément le code front. Et après, au niveau back, bah, si tu maîtrises ta techno, ça reste ce que tu connais, c'est propre et tout ça. Tu as tout plein de bonnes pratiques. Tu as des conventions, hein, quand on est sur Laravel, tu as des conventions. Tu en as aussi sur Vue, évidemment. Donc voilà, on a à peu près tout vu. Mais après, il y a plein de choses, tu vois. Donc, on peut faire vite fait le tour, mais tu vois, ce qu'on avait dit, le partage pour tous les deux components. Là, ils ont rajouté les flash data, c'est pour afficher une pop-up, tu vois, si jamais tu enregistres, user créé, etc.
Ah, genre des modales, des modales.
Ouais, c'est ça.
C'est
ouais.
Quoi, c'est des modales ou c'est plus l'équivalent un peu de toast, tu sais, c'est les.
Bah, c'est des toasts, ouais, tu. Okay. Au niveau du back, maintenant, tu as un truc qui s'appelle Inertia Flash. Et après, au niveau du front, t'en fais ce que tu veux, mais tu récupères la data et tu l'affiches. Mm-hmm. Après, il y a toutes les bonnes pratiques. Tu peux recharger les props, ce qu'on avait dit. Tu as des props différés qui seront chargés après le premier chargement. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Le prefetching qui peut être géré aussi. Au niveau des liens, tu peux mettre des prefetch. Des components qui seront chargés uniquement quand c'est visible, l'infinite scroll, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont déjà disponibles, des helpers, tout ça, donc c'est assez riche et ça fait que au fil des versions, même des mineurs, hein, ils rajoutent des petits composants par-ci par-là, donc ça s'améliore très rapidement.
Top, voilà. Excellent. Ok, si moi je veux m'y mettre, j'ai envie de tester ça. Quelle serait pour toi en fait la meilleure manière de faire ? Ok, c'est de tester, mais est-ce qu'il y a la doc se suffit à elle-même ou il y a on va dire des sites un peu j'aime pas trop tuto, tu vois, mais une sorte d'onboarding pour venir découvrir cette technologie, c'est quoi le mieux ?
Le mieux c'est déjà d'utiliser la techno avec laquelle tu es à l'aise. Donc je me rappelle plus.
Côté back, tu veux dire
le framework. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si t'es plutôt. Je vais le trouver.
Non, mais tu fais MVC. MVC.
Ouais, t'as raison, MVC, ouais.
MVC JS, tu es quasiment sûr de le trouver.
C'est vraiment la honte. Hein. Adonis, ça y est, je l'ai.
Adonis, ouais, la vache.
Ça, c'est la honte. Ouais. Donc, Adonis est totalement compatible avec Inertia. Donc, évidemment, si tu es plutôt à l'aise en JS, pars sur Adonis. Qui est totalement compatible avec Inertia et je ne sais pas s'ils en parlent sur la doc, ouais. Mais voilà. Donc, évidemment l'avantage c'est la gestion des typages, qui est, bah, du coup, c'est du JS, donc du, enfin, c'est même du TS et front en TS. Donc, tu as la génération des typages qui est plus simple à transférer entre les deux. Et ensuite, par contre, derrière, le fonctionnement, c'est exactement le même qu'avec Laravel, avec un render, etc. C'est vraiment tout, tout pareil.
Ok, donc toi, en fait, tu dis bien, ok, tu pars de ta techno, par exemple, j'ai du Sympho ou j'ai du Laravel, j'ai l'habitude de faire ça, je veux tester, j'ai trifouillé un peu du Vue ou du React, j'aime bien, vas-y, je vais essayer de simplifier la vie, je ne change pas ma techno back, mais je mets Inertia, et si je suis la doc de Inertia, je peux m'en sortir.
Je l'ai là, tu vois.
Je peux
faire quelque chose. J'ai trouvé la page. Okay. J'ai trouvé la page Inertia sur Adonis, tu vois, et on est vraiment sur la même chose, tu vois, tu as un Inertia render avec on est vraiment sur le même concept, c'est tout fonctionne pareil en fait en fonction du framework, c'est toujours la même chose, les mêmes concepts. Et du coup, voilà, si tu es à l'aise avec JS ou TS, bah pars sur du Adonis et fais de l'Inertia. Si tu es à l'aise en PHP et en JS, bah Laravel c'est une bonne solution, mais voilà. Mm-hmm.
Ok. Et toi, tu trouves que la learning curve, voilà, la courbe d'apprentissage, pour éviter de faire des anglicismes trop souvent, la courbe d'apprentissage, elle est dure ou au final, elle est plutôt facile et on peut facilement plonger dans cette librairie où y a quand même une barrière à l'entrée.
C'est hyper simple. Si tu es à l'aise avec ton framework habituel front et le framework back, c'est hyper simple. Franchement, c'est tellement logique. Et comme je t'ai dit, ça ne change pas vraiment tes habitudes. C'est, la prise en main est très rapide. Très, très rapide.
Ok. Et est-ce qu'on pourrait donner... Enfin, est-ce que toi, tu pourrais donner des éléments pour inciter, par exemple, un développeur ou un chef de projet de passer là-dessus Quels seraient les trois arguments que tu mettrais en avant pour faciliter en fait le job des équipes de dev pour aller voir le project manager, lui dire non mais il faudrait tel ou le lead dev en disant mec on se fait chier là, on pourrait faire ça serait tellement mieux. Ce serait pour toi les trois points clés à retenir de Inertia, ça serait quoi?
Bah c'est simple, simplicité et du coup tu as la maintenance derrière qui est plus facile. Okay. Et puis juste bon sens quoi, c'est juste du bon sens de simplifier les choses. Je t'avoue que j'ai eu des projets sur lesquels j'ai pas travaillé, mais j'ai pu voir en fait le fonctionnement des devs sur des projets l'année dernière qui étaient le back en Symfony, le front en React avec du chat CN, tout ça, la complexité et du coup le temps pour mettre chaque feature en place. Très complexe en fait. Et là, tu te retrouves avec quelque chose qui est hyper simple. Et j'ai envie de dire, mais si vous aviez utilisé Inertia, mais votre app, vous l'auriez sorti en 2 mois au lieu de mettre 6 mois. Quoi. Mais, et okay. Surtout derrière, la maintenance est vachement facilitée. Quoi. Parce que tu enlèves toute une partie requête AJAX, validation, API, etc.
D'accord. Ok. Mais top, Patrick. Écoute, maintenant, bah, comme d'habitude, hein, il n'y a plus qu'à, parce qu'on peut écouter parler d'Inertia, on peut regarder des tutos pendant des heures et des heures, mais la seule vérité, c'est coder, tester. Et, ouais. Et je pense que là, vous avez une ordre un peu 360 de Inertia, de tous les avantages que ça peut avoir. Donc, bah, il n'y a plus qu'à. Merci, Patrick.
Merci. À plus.
Écoute, on remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on vous dit à bientôt pour la suite des épisodes. Ciao, ciao.
Ciao.